Alors le groupe des petits nous a déjà bien introduit dans ce texte, ce récit de l'épisode des mages. Nous allons néanmoins le relire encore dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Et normalement, le texte va s'afficher parce que j'ai un petit PowerPoint avec, qui accompagne la prédication. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Eliane. Donc parfait, on va attendre quelques secondes encore pour que ça s'affiche. C'est ça, exact. Donc c'est un épisode que l'on trouve uniquement dans l'évangile de Matthieu, hein, l'épisode des mages au chapitre 2. Vous savez qu'il y a deux évangiles qui nous rapportent les événements de la nativité, de la naissance de Jésus-Christ, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Les deux autres évangiles n'en parlent pas. Donc Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. « Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors les sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. » Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Voilà un épisode bien connu, c'était la lecture dans la version Parole de vie, un épisode bien connu représenté dans la traditionnelle crèche de Noël dans laquelle on mélange souvent plusieurs récits de la nativité que l'on trouve chez Matthieu et chez Luc. En réalité, les bergers et les mages ne se sont probablement jamais retrouvés en même temps auprès de Jésus. Chez Luc, ce sont les bergers qui viennent adorer l'enfant Jésus le soir de Noël et chez Matthieu, ce sont les mages après un long périple depuis l'Orient, qui viennent adorer l'enfant Jésus. Cela se déroule probablement bien après la nuit de Noël. En effet, plus tard, Hérode, en colère, donnera l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans ou moins, avec une précision dans le texte biblique, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors même si les 2 ans correspondaient au moment de l'apparition de l'étoile, il faudrait alors compter le voyage, et même si on peut imaginer que dans sa colère, Hérode a pris de la marge, eh bien on est plusieurs mois probablement avec cet épisode, plusieurs mois après la naissance de Jésus dans notre récit. Chez Matthieu, donc pas de berger, mais uniquement des mages venus de l'Est, d'Orient, et d'autres personnages interviennent aussi dans ce récit, le roi Hérode, les chefs des prêtres. Et je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur la réaction de ces différents personnages par rapport à la naissance d'un roi, du roi Jésus-Christ. Tout d'abord, Hérode le parano. Il y a Hérode, il est inquiet pour son pouvoir, inquiet et dangereux en plus. Il suffit de voir la suite du récit. C'est bien conforme à ce qu'en font les historiens. Hérode avait l'habitude de faire exécuter ceux qu'il considérait comme une menace. y compris trois de ses propres fils. Pour l'instant, il mène sa petite enquête auprès des prêtres. Il demande des précisions, hommages à propos de ce roi dont il parle, et il élabore un plan manipulateur. « Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi j'irai l'adorer. » Comment un petit enfant peut-il être une menace pour Hérode ? À la fin de sa vie devant Pilate, cette fois, Jésus dira que son royaume n'est pas de ce monde. Ça pourrait être entendu justement comme on n'est pas en concurrence, toi et moi. Et pourtant, ce royaume de Dieu dont l'entrée est réservée à ceux qui sont petits comme des enfants, dans lequel l'amour pour Dieu et pour le prochain est la valeur suprême, ce royaume est perçu comme une menace par ceux qui sont avides de pouvoir et qui veulent garder leur place. Dans l'histoire, les puissants se sont inquiétés du pouvoir de Jésus. Les chefs religieux dans les évangiles se sont opposés à Jésus. L'Empire romain, ensuite, a persécuté les chrétiens dans les premiers siècles de notre ère. Et les régimes totalitaires, jusqu'à aujourd'hui, persécutent encore les chrétiens. C'est bien que ce royaume, inauguré par celui qui s'est fait petit enfant, dérange ceux qui détiennent le pouvoir, dérange les puissants. Même si les chrétiens sont invités à respecter les autorités et à être de bons citoyens, il y a peut-être, et c'est peut-être pour cette raison, forcément, des situations où la fidélité à l'Évangile nous placera peut-être un jour à contre-courant. Si bien que lorsque l'Église ne fait que se fondre dans la société où elle vit, en faisant le moins de vagues possible, en devenant presque transparente, joue-t-elle vraiment son rôle ? Ce n'est pas uniquement face à des régimes totalitaires qu'il y a une voix à faire entendre, mais aussi dans nos sociétés démocratiques, lorsque les plus fragiles sont oubliés, lorsque les réfugiés ne sont pas accueillis, lorsque les libertés sont bafouées ou lorsque l'argent est roi, etc. Deuxième catégorie de personnages qui réagit dans ce récit, des prêtres, mais des prêtres aveugles. Les chefs des prêtres, au palais, ils sont conseillers du roi, et c'était Hérode qui les nommait. Quand il leur demande où le Messie doit naître, leur réponse est parfaite. À Bethléem, comme l'annonce la prophétie que l'on trouve dans le livre de Michée. Pas de problème, ces prêtres connaissent bien leur Bible, ils savent intellectuellement où doit naître le Messie, mais quand ils voient arriver des personnages qui viennent de loin pour adorer le roi des Juifs, qui vient de naître, eh bien eux, ils restent aux côtés d'Hérode dans son palais. C'est quand même curieux. Ils ne vont pas avec les mages voir pourtant le roi des Juifs. Dans les évangiles, les chefs religieux ne sont pas vraiment ménagés. Ce sont ceux à l'égard desquels Jésus a les paroles les plus dures. Il représente à la fois l'impasse d'une religion formelle basée sur l'application et la mise en pratique de certaines lois et de beaucoup de lois, les dangers d'une religion où les responsables aussi sont plus intéressés par le pouvoir que par l'obéissance à Dieu. Et dans notre récit, on voit là le contraste entre leur connaissance des prophéties bibliques et l'absence d'impact dans leur vie. C'est quand même très frappant. Cela doit nous interpeller, chacun aussi. Quel écart y a-t-il entre la foi que nous professons et la manière dont elle impacte notre vie ? Je pense qu'on sait beaucoup de choses. On a peut-être lu notre Bible plusieurs fois, on a peut-être assisté à des centaines d'études bibliques dans notre vie. Comment cela impacte en réalité notre vie ? Alors si je l'espère, nous ne sommes pas aveugles spirituellement comme l'étaient ces chefs des prêtres, avouons que nous sommes quand même un peu bigleux spirituellement. Notre vue spirituelle n'est pas toujours très bonne et on pourrait même se hasarder, et c'est ce que je vais faire maintenant, à quelques analogies. Spirituellement, on peut être myope, on peut être presbyte, on peut être astigmate ou hypermétrope. Alors le myope, c'est celui qui ne voit clair que de près. Il a le nez dans sa Bible. Il est capable de réciter tous les versets que vous voulez, mais de là à voir au-delà du bout de son nez, c'est compliqué. Les myopes spirituels s'intéressent à leur propre vie spirituelle, leur foi, leur piété, leur épanouissement spirituel, mais peu à l'autre, au prochain. Le presbyte, lui, à l'inverse, ne voit clair que de loin. C'est un peu l'histoire de la paille et de la poutre. On est capable de voir la paille dans l'œil de son prochain, avec la distance, mais on est incapable de voir la poutre dans son propre œil. C'est trop près. Les presbytes spirituels sont prompts à juger les autres et donneurs de leçons, mais jamais ils ne se remettent en question. L'astigmate, lui, il a une vision qui est déformée. Alors, il y a Marie-Joseph peut-être dans la salle, elle me dira tout à l'heure si je ne dis pas trop de bêtises sur les yeux. L'astigmate a une vision déformée, quelle que soit la distance. Il voit toujours les choses différemment des autres, et ce sont forcément les autres qui ont tort. Il a souvent un réflexe de victimisation, il se dit incompris, mal aimé, rejeté. L'hypermétrope, lui, y voit flou. Spirituellement, il ne sait jamais où il en est. Il a tendance à se convertir 30 fois dans sa vie, se laisse emporter par les prédicateurs à la mode sur YouTube, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Alors bien sûr, voilà, c'était une petite blague, hein, mais ces analogies ont des limites. Mais l'idée principale est de se dire, quelle est ma vue spirituelle ? Nous avons tous besoin, en réalité, des lunettes du Saint-Esprit pour y voir clair. Troisième catégorie de personnes, donc les mages. Il y a les mages, alors que sait-on d'eux ? On ne sait pas grand-chose. En réalité, c'est la tradition qui a fini par dire qu'ils étaient trois et que c'était des rois, et on leur a même donné donc des noms. Mais le texte biblique est bien plus sobre, ils viennent d'Orient, c'est vague. Viennent-ils de Babylone ? Viennent-ils de Perse ? En tout cas, ça en fait clairement des non-juifs, des païens. Ils ont scruté les étoiles, ils ont vu le signe, ils y ont vu le signe de la naissance du roi d'Israël. Ne me demandez pas comment ils ont fait. Certains commentateurs émettent l'hypothèse que comme le peuple avait été amené en exil, il avait emmené avec lui des textes bibliques de l'Ancien Testament, qui étaient peut-être restés dans des bibliothèques où certaines personnes très instruites pouvaient lire l'hébreu et puis y découvrir des prophéties. Peut-être que c'est de cette façon qu'ils ont eu connaissance. Voilà, c'est une hypothèse possible. Ce qui est sûr, c'est que ça te fait d'eux, en tout cas, des personnes qui essayent de trouver dans le ciel des signes pour lire et découvrir ce qu'il va arriver. Et aujourd'hui, on dirait que ce sont des astrologues. Et à l'époque, c'était le cas. Ce sont des astrologues avec une... Entre l'astrologie et l'astronomie, à l'époque, les choses étaient très proches. Aujourd'hui, c'est quand même complètement différent. Mais ce n'est pas très catholique, quand même, tout ça. Si ce récit avait été écrit par un bon chrétien, il aurait sans doute trouvé mieux et plus évangéliquement correct pour venir adorer le Messie. On aurait quand même pu trouver mieux. Mais Dieu est allé chercher des païens venus d'Orient, ça m'étonnera toujours. Il est allé les chercher sur leur terrain, les étoiles. Je ne suis pas en train de défendre l'astrologie, loin de là, mais il faut juste se souvenir qu'au temps de Jésus, justement, je le disais déjà, l'astrologie, l'astronomie, finalement, n'existait pas vraiment comme des... Bon, on ne va pas dire des sciences pour l'astrologie, mais des choses, des domaines distincts. C'était un petit peu... Tout allait un peu ensemble. Dieu est allé chercher ces hommes curieux, et des hommes qui étaient prêts à entreprendre un voyage pour aller adorer le roi des Juifs, le roi quand même d'une nation qui n'était pas la leur. Il y a d'autres cas dans la Bible où Dieu fait éclater justement nos carcans et nos a priori en utilisant des hommes ou des femmes là où on ne s'y attend pas. Il y a par exemple le fameux Melchisédek qui vient de nulle part pour bénir Abraham, ou alors encore Job qui est exemplaire dans sa foi, alors qu'il n'appartient pas au peuple d'Israël. Plusieurs maximes du livre des Proverbes sont issues d'une sagesse en dehors du peuple d'Israël. Et on a même le roi perse Cyrus, que Dieu appelle son noin, c'est-à-dire son messie, un titre choisi, un titre messianique. Dans les évangiles, on peut penser à plusieurs païens aussi, comme la femme syrophénicienne, ou le centurion dont Jésus dit que même en Israël, il n'a pas trouvé d'aussi grande foi. Et puis il y a cet homme aussi qui chasse les démons au nom de Jésus, mais qui ne fait pas partie du cercle des disciples. Et Jésus dit à ses disciples de le laisser faire. Vous voyez, on a comme ça plein de textes qui nous font sortir de nos a priori et de nos carcans. Ne nous hâtons donc pas de dire comment Dieu parle et à qui il parle ou ne parle pas. Laissons-nous surprendre et accueillons ceux que Dieu lui-même accueille. J'en viens déjà à quelques mots de conclusion avec tous ces personnages, donc Hérode, le parano, des prêtres aveugles, nous questionnent aussi sur notre propre vue spirituelle, et des mages, pas très catholiques. Ils sont réunis tous dans ce récit de la naissance du roi des rois. La bonne nouvelle de Noël est pour tous. Alors là, oui, j'ai mis l'image d'une foule en disant, mais quelle galerie de personnages quand même si étranges. Et chacun a sa réaction, et leur réaction doit nous interpeller chacun. La bonne nouvelle de Noël, elle est pour tous, car Dieu va à la rencontre de ceux qui le cherchent, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Amen.